Déjà, ce que je voulais vous dire... Je voulais pas vous plomber le moral, déjà.
Ah bon?
Non, mais c'est... Pour moi, prendre conscience de quelque chose, c'est toujours porteur d'espoir. C'est l'ignorance qui est pour moi source de désespoir. Donc, pour moi, même si la réalité est terrible à faire face, au moins, on y fait face. C'est le contraire qui est pire. Je pense que l'ignorance est bien pire que tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Attends, je vais juste finir ce que je voulais, ce que j'ai oublié, enfin pas oublié, mais que je m'étais dit, je vais commencer par ça. Donc je vous ai dit, Secret Toxique, c'est une coalition d'associations. Donc c'est vrai qu'on adhère à Secret Toxique en tant qu'association. Ça c'est une part. Mais en tant que citoyen, vous pouvez nous soutenir. Vous pouvez signer votre soutien en fait. Hein, c'est donné, voilà, on a un site, donc www.secrettoxique.fr. Et voilà, vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, votre adresse mail dessus. Vous serez tenu au courant de la campagne, enfin des suites. Vous pouvez aussi donner un petit peu de sous si vous avez envie. Financièrement, on en a besoin. Là, on a réussi. On avait un peu d'argent de la fondation de Gilles-Éric Serralini pour démarrer. Après, on a réussi à puiser dans les enveloppes parlementaires parce qu'ils ont le droit de le faire au niveau européen, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire au niveau français. Donc les trois groupes ont donné. Après, on a réussi à avoir un financement d'Equibio, qui est une boîte de la bio. Après, on a un financement de Léa Nature. Mais enfin, on n'arrive qu'à la mi-décembre, quoi. À la mi-décembre, de toute façon, on n'a déjà plus de sous. Donc on est en train de nouveau de rebâtir des dossiers de financement. On a des bons espoirs, mais voilà, c'est le nerf de la guerre et malheureusement, c'est pas évident. On a... Ben, rien contre le... Ben, on a un directeur de campagne, parce que sans lui, on ferait jamais tout ce qu'on fait. C'est, je veux dire, il bosse pas 24 heures sur 24, heureusement, cet homme, il se repose, mais voilà, il bosse à plein temps là-dessus, et il faut vraiment tout ce temps-là, quoi. C'est vraiment pas... C'est vraiment nécessaire. Entre ça, plus les deux personnes qu'on prend une cinquantaine d'heures par mois sur la communication, l'animation des réseaux, tout ça... Ça nous fait vite fait, on a déjà un budget de 100 000 euros par an. Ben, vous prenez un salaire d'une personne qu'on paye, un directeur de campagne, 2 200 euros net par mois. Ben, avec les cotisations salariales patronales, ça fait un peu plus de 4 000 euros. Multiplié par 12, vous êtes déjà presque à 50 000 euros. Quoi. Donc, voilà. Donc il y a des besoins. On espère bien avoir une subvention de la Maison de la Bio là pour janvier. Le dossier est parti. On essaie de grappiller. Si vous avez des fondations, si vous connaissez un mécène, voilà, c'est bienvenu. Puis si vous voulez nous aider aussi, vous pouvez. Voilà. Et puis le site, là, on vient de le refaire cet été. Il est plein de docs. On a mis plein de vidéos plus ou moins longues dessus, On avait fait une campagne des trous dans la raquette, qui est une série de 5 ou 7 vidéos de 3 minutes. Donc c'est très court, c'est vite expliqué, mais c'est juste tout ce que vous avez besoin si vous voulez vous rafraîchir la tête sur ce que je vous ai dit. Le fonctionnement, on l'a appelé les trous dans la raquette, hein, vous avez bien compris pourquoi. Parce qu'entre l'EFSA et l'ANSES, tout passe à travers, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de documentation. L'étude de Serralini-Gingère, vous pouvez la trouver en entier. Et, voilà. Et des liens aussi vers d'autres choses. Donc vous êtes les bienvenus à fréquenter notre site et à laisser votre adresse mail. Vous serez tenus au courant de ce qu'on fait. À vos questions. Joël, tu veux dire quelque chose?
Oui, qu'est-ce que tu réponds à des gens qui disent « Moi, j'habite sur un nid d'aigle et je mange bio et je fais tout bio, donc que les autres s'empoisonnent, je m'en fous ».
C'est ce que je pensais.
Qu'il se tord.
C'est ce que je pensais.
Il a tort, mais qu'est-ce qu'on va lui répondre?
Je pisse du glyphosate.
Comment?
C'est ce que je pensais, je pisse du glyphosate. Ouais. L'octane, donc, que vous avez connu, il en pisse encore plus que moi. Quoi.
Alors qu'il mange bio.
Depuis qu'il est né.
Et il habite à la campagne.
Ben maintenant, il habite sur le Larzac. Avant, il habitait avec nous sur Alarance. Il avait 23 fois... 23 fois la teneur de glyphosate dans l'eau. Autorisé dans l'eau potable, quoi. Dans ses urines.
Et d'où il vient?
On en a encore reparlé ce week-end, parce que du coup, comme le co-président de Secret Toxique, c'est Dominique Massé, qui est président de Campagne Glyphosate France. Parce qu'il y a... Bon, ça va sortir, l'étude... Parce que si, pour ceux qui ont fait les analyses d'urine, il y a toute une étude épidémiologique qui a été faite, hein, il y a des questionnaires que nous avons tous remplis. pour essayer de comprendre en fonction des habitudes, des lieux d'habitation, des lieux de travail, etc. Ce qui pouvait expliquer la présence de glyphosate dans les urines. Donc ça va sortir. C'est très difficile à comprendre. Très difficile à comprendre. Il y en a plus dans les... Il y en a plus chez les bébés que chez les mamans. On a vu, on a un bébé à Centrafrique, là. C'était effroyable, quoi. Il en avait le double que sa mère, quoi. Donc...
Et où ça en est par rapport à glyphosate 12, là, l'association
Mais en fait, on est...
Comment c'est
toutes les plaintes ont été... en fait, c'est des plaintes qui ont été déposées localement dans tous les tribunaux en France et qui sont toutes centralisées au niveau du parquet à Paris.
D'accord.
Au niveau du pôle santé du parquet à Paris.
Donc, je crois qu'il y a 70 personnes à peu près en Aveyron qui ont...
Je ne sais pas, il y a personne de campagne. Ouais. 6600 plaintes en France.
D'accord, et tout ça c'est rassemblé en fait. Et ça...
Au pôle santé à Paris, et là il y a des nouveaux éléments, puisqu'il y a eu une tentative de dénigrement des analyses qui a eu lieu l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Il y a 2 ans maintenant. Et ouais, c'est ça, l'hiver il y a 2 ans. De la part de la FNSEA, en critiquant les tests ELISA, et bon, ça tient pas. Donc on est tranquille. Non, mais il a fallu blinder le dossier de défense, enfin voilà.
Oui, mais pourtant ça a été fait devant un huissier. Enfin, c'est...
Oui, mais c'est ce qu'ils ont essayé de critiquer, c'est parce qu'ils ont, ils ont fait des analyses dans lesquelles, oh, mais il n'y a rien. Alors déjà, quand on a dit, c'est pas possible qu'il n'y a rien, on dit, oh, il y en a un peu. C'est facile, hein. Vous buvez, vous pissez, puis après vous faites une analyse, peut-être pas grand-chose. Ouais. Quand on fait une analyse d'urine, vous savez, quand on l'a fait pour ça, c'est comme pour une analyse de sang pour un médecin, quoi. C'est à jeun et le matin, quoi, et la première urine. Donc voilà, ils ont essayé de dénigrer, hein, comme on dit, hein, je disais tout à l'heure par rapport à Serrani, dénigrer, il en restera toujours quelque chose. Donc, non, ça tient pas, et il y a des bonnes preuves que il n'y a pas de souci pour la campagne. Mais ça, bon, voilà, je ne peux pas en parler.
Ça
plus.
Va être jugé à quel moment, dans combien de temps?
J'en sais rien. Ouais. Ça, c'est Dominique Massé qui pourrait. Mais posez-le la question si vous faites partie de campagne glyphosate 12. Posez la question, et Dominique vous répondra tout ce qu'il. On peut répondre aujourd'hui, sachant qu'il y a une affaire en cours d'études, quoi. Voilà. Moi-même, je ne sais pas jusqu'où ce que je peux dire, pas dire. Donc...
D'accord.
Voilà.
Moi, je voudrais bien savoir qui c'est qui paye le laboratoire de Serraini quand il fait les analyses pour secrets toxiques.
Alors, Gilles Éric, il met dans une association qui est son association. Tout à l'heure, je voyais le livre de Jérôme Douzelet et de Gilles Éric Serraini. Si tu te souviens, quand Gilles Éric était venu à Rodez, à Sébazac, à la Doline, c'était avec Jérôme Douzelet. C'était justement à la sortie de ce livre, du poison dans nos assiettes, hein, je crois que c'est ça.
Ouais.
Donc en fait, à chaque fois qu'il fait une conférence comme ça, tout l'argent de ses conférences, puisque lui, il a un salaire de chercheur et d'enseignant, tout l'argent de ses conférences, il le met dans son association, il le garde. Voilà. Et il a un financement, alors qui n'est pas occulte, de fondations qui soutiennent les recherches de Gilles Éric, mais enfin toutes les recherches qui vont dans ce sens-là en toxicologie, sauf que c'est pas occulte, mais quand il a eu l'affaire des rats nourris au maïs OGM et arrosés de Roundup, quand il a diffusé malheureusement puisqu'on lui a demandé le nom des annonces
des financeurs,
ils ont été harcelés. Il y a eu une campagne vis-à-vis d'eux ciblée qui était juste phénoménale, quoi. Donc voilà.
Donc ils veulent pas qu'on dise en...
Donc aujourd'hui, c'est malheureusement pour ce qu'on pourrait aimer de transparence, hein, pour nous, même association, on peut pas le savoir. Vous voyez, je suis clair avec vous, je vous le dis. Après, on a l'assurance, main sur le cœur, de Gilles Éric, il n'y a pas de souci. Puis de toute façon. Pour faire quoi que ce soit, il faut des sous, quoi. Je veux dire, on lutte contre une machine, mais entre l'association de Gilles Éric et la fondation, c'était 30 000 euros. Ça nous a permis quoi? Ça a permis de démarrer l'action, de payer les frais d'avocat pour le recours juridique. C'est pour ça, je ne vous l'ai pas dit, mais si une association vient porter plainte, les frais sont payés. Ça a permis ça. Ça a permis d'avoir un directeur de campagne, quelques chargés de communication, de créer le site web. Et puis en décembre, il n'y avait plus de sous, quoi. C'était fini. 30 000 euros, c'était 15 000 pour... je crois qu'il a fallu ça pour payer les laboratoires, pour les études. Parce que les machines qui font de la spectrographie de masse et de la chromatographie, ça coûte cher, ces études-là, quoi. Plus multiplié par 14 produits. En plus, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, ils n'avaient plus assez de produits pour faire les études. Ils sont retournés en racheter, ils n'avaient pas les mêmes compositions. Numéro de lot différent, pas la même chose à l'intérieur. Voilà, donc voilà, tout ça, ça coûte des sous. Donc, franchement, moi, je suis à l'aise avec vraiment. Au début, on s'est posé des questions, mais dis-nous. Et puis, on a dit, mais vraiment, je peux pas, quoi. Voilà. Donc, ouais, soyez tranquille avec ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vous dis, voilà, les financements qu'on a eus aujourd'hui viennent tous du monde de la bio, des enveloppes parlementaires, mais nous, on prend jamais un seul courant politique, hein, trois. Comme ça, puis on reste à gauche et vert. Parce que, voilà. Mais c'est voilà, en face, on a c'est des millions et des millions d'euros qu'ils ont pour dénigrer, pour faire des campagnes, pour nous attaquer, quoi. Éric Andrieux, enfin, si ça vous intéresse, quand il était président de la commission PEST, il a publié un article dans Le Monde. C'est juste effrayant, quoi. Des coups de fil qui... Enfin, déjà, drôle d'histoire sur les ordinateurs, des choses qui n'arrivaient plus, des trucs qui retrouvaient plus, enfin voilà, comme si un ordinateur a été piraté, plus des coups de fil... On se croirait dans la mafia, quoi. Alors, la petite famille, ça va bien, quoi. C'est... Ouais, il recule devant rien, quoi. Donc, oui, nous, il faut des sous. Après, nous, on veut absolument que ça soit éthique, forcément. Mais parce que c'était assez courant de dire « Ah, mais c'est la bio qui vous... Il y a conflit d'intérêts, c'est la bio qui vous subventionne. » Ben oui, et on va faire ça comment? Avec mon salaire de paysan? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui mette la main à la poche à un moment donné. Donc la maison de la bio, bah oui, c'est un gros groupement. Dedans, il y a Biocop, c'est le seul moyen qu'on a si on veut faire quelque chose. Autrement, c'est malheureux, mais de toute façon, voilà, l'argent viendra toujours de quelque part, de toute façon. Et même si c'était que d'un mécène, ça serait pas forcément plus éthique. Quoi. Donc voilà, nous on le demande là, on s'est inscrit au 1% pour la planète. Donc il y a deux... Alors je ne peux pas vous dire qui c'est, parce que j'ai regardé, mais j'ai oublié les noms. Il y a deux boîtes en Aveyron qui sont 1% pour la planète. Si vous connaissez du monde, enfin quelqu'un... Parce que ce n'est pas des grosses boîtes, forcément. Enfin, on a Léa Nature qui nous a financé, donc qui est une grosse boîte, et qui est au 1% pour la planète. Mais du coup, elle nous y a fait rentrer. Mais après, dedans, ça peut être... on a vu, il y a un avocat, un kiné, qui décide de reverser 1% de son chiffre d'affaires à une association reconnue au 1% pour la planète. Voilà. Donc on vient d'y rentrer, là on va faire un petit séminaire avec eux. Donc voilà, c'est comme nos financements viennent de là. Et Didier, tu...
Est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces assos, les nôtres, pour aller vite, et le monde de la médecine? Parce que si on parle de l'idée qui pourrait être avérée juste, que tous ces pesticides, je suis double, hein, toutes ces molécules font du mal à l'être humain, ou créent des maladies. Qu'est-ce que dit le monde de la médecine? Est-ce que nos médecins généralistes, qu'on a tous dans nos villes, sont interpellés par vous, ou vous interpellent pour vous dire « Moi, j'ai quand même 200 mecs qui ont la prostate machin, Parkinson truc muche, ou les gosses, ils ont de plus en plus de pneumonie. » Est-ce que la médecine, le monde de la médecine, hein, au niveau des généralistes, je parle pas peut-être... On peut aller beaucoup plus loin, de nos petits généralistes de ville sont pas partie prenante, mais on vous interpelle ou un intérêt porte un intérêt à ce que...
Ah oui, complètement. Après, c'est dommage. Alors, du coup, il y a une association qui est très, très militante là-dessus, mais ils ne font que du conseil, de l'assistanat, du témoignage aux tribunaux. C'est l'association des... Alors, au départ, c'est AMLP, Association des médecins du Limousin contre les pesticides. Donc maintenant, c'est juste l'association des médecins contre les pesticides. Voilà, l'histoire, pour parler franchement, parce que pour moi, il n'y a pas de tabou. Cette histoire de financement, ça ne leur a pas plu, ils sont partis. Mais en fait, bon, ça fait un moment qu'on les connaît, et ils sont pas, c'est pas leur mode d'action, c'est pas leur cheval de bataille d'aller porter plainte, de faire des choses comme ça, quoi. Donc ils ont pris ce truc pour... Il y avait des gens où... celui avec qui on travaillait était prêt à continuer, mais voilà, il y avait un conseil d'administration et d'autres médecins, et ils ont préféré, parce qu'ils luttent contre les conflits d'intérêts. Alors pour eux, à partir du moment où on ne savait pas qui était le financeur, il y avait un conflit d'intérêts potentiel. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Nous, on travaille pour la société civile. On ne travaille pas pour défendre un intérêt privé. C'est ça la différence entre un conflit d'intérêts. C'est qu'on défend un intérêt privé. Donc ce que fait Monsanto, Bayer, Syngenta et Dow Chemical et tous les autres. Quand eux, ils payent des études, c'est pour les servir, pour servir l'intérêt privé. Nous, on n'a pas ça. Nous, j'ai aucun intérêt, moi, dans tout ça. Je donne mon temps et... voilà, c'est 3 réunions par semaine, toutes les semaines, secret toxique, quoi. Plus là, plus plein d'autres choses, quoi. Donc, c'est tout. On fait rien, nous, avec cet argent-là. On fait que financer la campagne pour dénoncer l'inacceptable, quoi.
Donc les docteurs, les médecins et docteurs ne donnent jamais pas de liste, mais de statistiques si. Sur l'aggravation de ceci, la diminution de ceci.
Le rapport de l'INSERM. Le rapport de l'INSERM, tout à fait. Par exemple, ça, c'est un rapport médical. Hein. L'INSERM, c'est l'Institut National de... et Recherche Médicale, à la fin. De Sciences et d'Études de Recherche Médicale, un truc comme ça, ouais. Non, on en a plein. Si vous allez sur le site de Alerte Médecins Pesticides, c'est parti de là, hein. C'est parti des constats de cabinets généralistes. Pierre-Michel Perrino, qui est un des coprésidents de l'Alerte Médecins Pesticides, c'est un médecin généraliste dans le Limousin. Et il y a une pédiatre qui est à Toulouse et qui a témoigné dans les procès des faucheurs. Non, ils sont actifs, mais en tant que justement témoignage médical, quoi. Voilà.
Ils n'arrivent pas à fédérer au niveau de leur profession pour informer leurs patients. Donc ça, c'est toujours le même problème. Il faut trouver.
Il faut trouver le canal de réception. C'est ça le problème aujourd'hui avec les médias. C'est-à-dire que si vous, ça fait pourtant. Enfin, je veux dire, là sur la table, il y a Printemps silencieux de Rachel Carson. Quoi.
Oui.
1964.
Oui.
Pourquoi c'est pas une évidence pour tout le monde? Ce qu'elle a dénoncé il y a... Ce livre, non, c'est même pas 64, 62, c'était la création de Nature et Progrès. Il a poussé à la création de Nature et Progrès, parce que des gens ont dit, mais c'est pas possible. On peut pas aller dans ce truc-là, quoi. Et Nature et Progrès s'est créé, pas le slogan, mais le soulignage de Nature et Progrès, c'était pour notre santé et celle de la Terre, quoi.
Et pourtant, depuis l'édition de ce bouquin-là, ça n'a fait qu'empirer.
Ben ouais.
Et accélérer.
Et franchement, et ce qu'on lit dans le bouquin, parce que moi je l'ai lu, il est super, et à un moment donné, c'est presque un catalogue de... Je me dis, mais ils sont fous, quoi. Mais ce week-end, donc, on était avec Benoît Biteau. Donc Benoît Biteau, qui est paysan bio, donc député européen et paysan bio en Charente. Donc il est en polyculture, élevage, en extensif, préservation de zone, etc. Il reprend la ferme de son père, c'était 180 hectares de maïs irrigué. Il m'a dit, quand j'étais gamin, enfin quand on est avec mon frère, on servait de borne pour le pulvérisateur, pour la rampe. Il se mettait au bout du champ. T'es parti de là, papa, t'es parti de là. Quand tu vas faire le tour, tu reviens sur mon frère, puis il se déplace là, et on marche comme ça.
Sans aucune protection.
Non, mais c'était vachement important, ça permettait de ne pas en mettre trop, tu sais. Il n'y avait pas de chevauchement. Il m'a dit, mais le nombre de fois où on est passé sous la douche de la rampe de...
Bien sûr, vous avez vécu ça. On est bouffé un peu quand j'étais mort.
Non, c'est... Et tout ça, pour moi, j'insiste vraiment là-dessus, c'est une industrie du mensonge. Et tout est basé là-dessus, à force de dire c'est pas dangereux. Enfin, vous savez comment elle s'appelle, cette union internationale, ces industriels, l'Union internationale de protection des plantes. Pas l'Union nationale des poisons. protection des plantes. De toute façon, aujourd'hui, on ne dit plus, ça fait longtemps qu'on ne dit plus pesticides. On a dit phytosanitaire. Déjà, c'est quand même plus propre.
Et maintenant, on dit agent phytopharmaceutique.
Voilà. Et maintenant, c'est PPP, produit de protection des plantes. Ça, vous le voyez, vous allez à Unicor, RAGT, c'est PPP, produit de protection des plantes. Donc, on travaille ce mensonge, on travaille cette inculture, quoi. Et après, quand on leur dit, mais arrêtez avec les néonicotinoïdes, arrêtez avec le Roundup, etc. Oui, mais on en a besoin pour travailler. Mais est-ce qu'on a le droit de travailler avec ça? Moi, c'est ça la question que je me pose. Est-ce que vous avez le droit déjà d'empoisonner les autres, quoi? En fait, si vous étiez réellement conscient de la dangerosité du produit, vous autoriseriez même pas à travailler avec. C'est ça. Il y a André Cicolella qui a travaillé. Je ne sais pas si vous connaissez ce toxicologue. Sa prise de conscience s'est faite alors qu'il travaillait pour l'industrie de la chimie, des phytosanitaires. Et en fait, on lui a demandé de mentir sur des analyses de toxicologie qu'il avait fait sur des produits, je ne sais plus pour qui il bossait, pour la mise sur le marché. Donc là, pour lui, ça a été insupportable. Donc il a quitté, il s'est mis à dénoncer. Donc c'est le fondateur du réseau Environnement Santé. Il a publié il y a maintenant quelques années une étude. Alors c'est une étude, pas des expériences, c'est une compilation d'études de toxicologie, plein d'études, comme celle que je vous citais tout à l'heure. Cette étude dit, nos enfants, et c'est avéré, et c'est prouvé mais non avéré, nos enfants ont perdu 10 ans de vie en bonne santé. Nos enfants. Loctan, mon fils, a perdu 10 ans de vie en bonne santé. Il tombera malade 10 ans avant les gens de notre génération. C'est pour ça qu'on dit c'est prouvé scientifiquement, mais c'est pas avéré parce qu'il faut attendre 30 ou 40 ans pour le voir. Voilà, des fois je perds mon calme.
Non, c'est affreux. Plusieurs là, de l'association Biodiva avec une envie évidemment de vous rejoindre, mais concrètement, parce qu'on a des adhérents derrière nous et une toute petite cassette avec des sous dedans. Donc comment ça peut se passer?
Alors du coup, l'adhésion à Secret Toxique, c'est en fait on l'a mis en fonction du budget de l'association. Donc pour une petite association, c'est 50 balles, quoi. 50 euros. Si vous portez plainte, c'est ce que je vous disais, les frais de justice sont déjà payés, donc ça ne vous coûte rien. Après, là, on commence à essayer de vous faire travailler aussi localement. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai un trou là dans ma tête. Parce qu'on a, donc, on a eu une réunion associative, une réunion des assos, une fois par mois. Tous les mardis, le premier mardi de chaque mois. On fait une réunion Zoom, hein, malheureusement Zoom, mais bon, on a du monde de la France entière, donc c'est aussi bien. Et on raconte où on en est, on prend vos avis, on continue à travailler ensemble, voilà ce que vous avez à nous apporter. Et donc là, on a chargé les associations à élargir la plainte au niveau local. Et là, à la réunion de cet après-midi, là, on a lancé des interpellations d'une cinquantaine de, soit d'indépendants, soit de chaînes de magasins qui vendaient ces produits de l'étude Seralini. Et pour leur dire, vous savez que vous vendez des produits dont une étude montre qu'il y a une toxicité avérée et forte, quoi, et qu'il y a une plainte sur ces produits. Et ils n'ont rien fait. On les a interpellés sur Twitter, parce que bon, voilà, on se sert de ces machins-là aussi. Il y a eu zéro réponse. Donc là, on se dit, bon, il faudrait continuer dans ce truc, mais il faut être très très prudent par rapport au... à ne pas faire d'accusation. Tout ce qu'on fait, tout ce qui est campagne, tout ce qui est médiatique, c'est toujours relu par l'avocat, quoi. Je veux dire, vous connaissez Valérie Murat, ce qui s'est passé dans les vins de Bordeaux, la dénonciation des vins, le fameux label HVE, haute valeur environnementale, qui c'est une espèce d'enfumage pour siphonner l'argent de la bio, hein, faut pas se tromper. Donc elle a dénoncé la présence de pesticides, de résidus de pesticides dans des vins estampillés haute valeur environnementale. Franchement, il n'y a rien dans le rapport. La seule chose qu'on lui a reproché, je crois qu'elle a mis une tête de mort quelque part. Non, mais ça suffit pour se faire attaquer en dénigrement. 125 000 euros, 125 000 et 3 euros à payer et elle est obligée de les payer pour faire appel. Je vous dis pas, enfin moi j'ai échangé avec elle par mail, je vous dis pas dans quel état elle est, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un procès bâillon, quoi. Et ils ont essayé de faire la même chose avec une journaliste en Bretagne. Donc ouais, non, c'est, on s'attaque à quelque chose de gros, quoi. Parce qu'il y a, des enjeux financiers énormes, donc là c'est pas avec nos petits, 30 000 euros ou 15 000 euros qui arrivent de par-ci par-là qu'on peut lutter, mais voilà, on va lutter de toute façon, parce qu'on n'a pas le choix, il faut le faire, c'est un combat qui est trop important. Donc oui, donc du coup voilà, pour finir avec ce que je te répondais, on réfléchit comment donner de l'action. Alors on s'est dit, bah, peut-être qu'on va demander aux assos locales d'aller dans les jardineries où ces produits sont en vente et puis d'interpeller le directeur. Et vous savez que nous, on est clients de votre jardinerie, on vient acheter, je sais pas moi, mais si on n'achète pas leurs graines et leurs produits, on peut acheter des gants ou pour jardiner ou des trucs comme ça.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'agribashing, on ne fait pas non plus de bashing des commerçants,
non.
Qui eux vendent ça et d'autres trucs et qu'ils n'ont franchement pas le temps de regarder toutes les étiquettes en long en large.
Par contre, il faut qu'ils réagissent.
Comment ?
Par contre, il faut qu'ils réagissent.
Par contre, si on les interpelle, c'est-à-dire on va les voir et on leur dit, écoutez, nous, au labo, je travaille, on a plein d'étiquettes. On est obligé d'étiqueter tous les flacons qu'on donne aux élèves pour les TB. Donc, des choses qui sont quasiment anodines. Pour l'industrie chimique, ils rigoleraient quand on voit ce qu'on met comme étiquette pour les gamins. Mais enfin, on est obligé de le faire pour les former à la sécurité, au risque. On fait ça super sérieusement. On leur fait mettre des blouses, des gants, pour des trucs anodins. Mais on a des étiquettes, donc on pourrait, je sais très bien comment acheter ces étiquettes, on a des fournisseurs, donc c'est tête de mort, produits toxiques, reprotoxiques, cancérigènes. Donc on pourrait aller voir donc ces personnes, leur dire voilà, on a des preuves établies que ces produits que vous vendez contiennent des produits cancérigènes. Vous avez parfaitement le droit de les vendre puisqu'ils sont autorisés, mais on vous demande juste l'autorisation de coller sur ces flacons les logos qui manquent. Puisque d'après la législation, s'ils contiennent une certaine teneur cancérigène, il faut mettre cette étiquette. S'ils sont reprotoxiques, il faut mettre celle-là.
Mais là, voilà, là, attention. Voilà. Là, attention.
Et voilà.
Voilà, là, attention. Moi, j'irai pas faire ça.
Oui.
Voilà. ça peut être cher. Hein. Je sais pas si Biodiva elle est rien pour supporter ça. Voilà. Non, par contre, Gérald Gingère j'étais chargé d'aller acheter les produits, il est retourné avec les résultats de l'étude voir pas le directeur du magasin mais la personne qui vendait qui était responsable du rayon, quoi. Le mec il était effondré, quoi. Effondré parce que lui ce qu'il vivait, il a été floué par le représentant, le commercial, qui lui était même floué par la boîte qui l'embauchait, quoi. Donc c'est voilà, il faut mieux jouer sur sur ce truc là sur le procès de foi donc a été jugé il y a eu finalement eu un appel du parquet, mais donc il y a eu une relaxe et une reconnaissance comment on appelle ça de l'état de nécessité, hein, l'état de nécessité c'est que on enfreint la loi parce qu'il est nécessaire de le faire. Donc c'est ce qui a été reconnu aux faucheurs volontaires qui ont badigeonné les bidons de Roundup dans voilà. Et le juge a reconnu l'état de nécessité, il les a relaxés. Il y a eu un appel du parquet, on verra la suite. Mais il y a eu un témoin à décharge qui est intervenu au procès. C'est parce que je crois qu'il y a eu, je sais pas s'il y a eu qu'un seul magasin ou plusieurs. Qui est venu dire qu'il avait honte d'avoir vendu ses produits. Donc c'est bien de faire ça, quoi. Voilà. Mais il faut le faire prudemment. Il faut le faire prudemment. Je pense que interpeller et puis dire, mais si vous le faites pas, là par contre, on va le dire que vous voulez pas le faire.
Ça veut dire que donc dans ce type d'action, par exemple, que vous aimeriez que l'on fasse éventuellement.
Faut qu'on y réfléchisse bien, ouais.
On en discute et on est formé, entre guillemets, à la manière de le faire.
Voilà, on peut le travailler ensemble, le discuter ensemble. Nous, on
commence à y réfléchir.
On l'a pas encore fait. On ne l'a pas encore fait. Mais on peut. Voilà, on s'est dit qu'on allait y réfléchir à comment le faire, quel était, et c'est ça qui est sorti, de faire travailler plutôt les associations au niveau local auprès des jardineries et grandes surfaces qui vendent ces produits, interpeller.
De toute façon, c'est un peu notre optique dans l'association qui est très modeste, c'est d'être toujours, de ne pas attaquer les choses de manière frontale et agressive, mais plutôt de faire un maximum d'informations pour que les gens aient les cartes en main pour choisir eux-mêmes.
C'est ça, c'est ce qu'on fait ce soir.
C'est toujours ce qu'on a fait, et donc il faudrait qu'on continue. Parce qu'aller faucher des bidons ou détruire ceci ou détruire cela, c'est pas dans notre culture.
Ouais. Mais là, c'est ce qu'on fait ce soir. À Secret Toxique, on n'est pas une action de, enfin, on n'est pas sur des actions de terrain, quoi. On n'est pas ni la ronce, ni les faucheurs volontaires, même si on en émane pour certains. C'est pas notre cœur de travail, quoi. On est vraiment sur rendez-vous compte, quoi. Rendez-vous compte. Comment ça se passe réellement, quoi. Et c'est ça qui est important. Qu'on prenne tous conscience, quoi, de l'inanité de ces agences européennes et françaises et d'une non-application d'un règlement, quoi. C'est quand même... On a une loi européenne, elle n'est pas appliquée. Et par des agences qui dépendent de la Commission européenne. C'est quand même juste effrayant, quoi. Alors, t'imagines changer la l'enseignement agricole quand déjà la loi, on la respecte pas.
Mais quand même, pour aller sur du un peu plus optimiste, le bio, ça a l'air d'être... les agricultures bio, les surfaces en bio, ça a l'air quand même d'augmenter.
Mais on est le premier département en France, l'Aveyron, sur l'élevage en bio. Je veux dire, on n'est plus dans les années 70. Tout le discours qui dit on n'a pas les solutions, c'est du flan. Et moi, ce que je dis, c'est que, à force de refuser de vouloir s'intéresser au bio, de refuser de changer d'agriculture, et on ne met pas l'argent nécessaire. On pourrait mettre beaucoup plus d'argent sur la recherche en bio pour trouver les solutions qu'éventuellement, pour certains trucs, on n'a pas. En arbo, c'est compliqué, l'arbo en bio. Mais j'avais hier chez moi Jean-Luc Petit, qui est formateur en... Il a 65 ans. Il a fait toute sa vie de la formation en agribio, en arbo bio. Et des solutions, on en a en pagaille. Alors des fois, c'est compliqué, mais on y arrive, il n'y a pas de problème. On mange, vous allez à la Biocoop, il y en a des fruits en bio. C'est pas... Donc c'est possible. Voilà. Même si la cerise peut poser des problèmes aujourd'hui. Avec la Suzuki, pardon ?
Pas très locaux, mais oui, ils sont bio.
Oui, mais peu importe, il y a un endroit où ils arrivent. Bah, on est en Aveyron, c'est compliqué le fruit. Mais, parce que dans la vallée du Tarn, il y a un producteur bio. J'allais dire, il n'y en a pas un, mais aujourd'hui, il y en a un. Parce que suite, là, il y avait le bouquin.
En arboriculture.
Pardon ?
En arboriculture fruitière.
Ouais.
Ouais. Mais il fait pas de la pêche, lui, parce que je crois que...
C'est Loïc Almeras.
Comment tu fais pour avoir des pêches aussi belles ? Parce que moi, j'ai toujours eu des soucis et ça m'énerve.
Voilà, Loïc Almeras est passé en bio. Voilà, il doit être maintenant en bio. Je pense qu'il a passé ses années de conversion. Mais voilà, après, il y a avec des choses compliquées, des choses simples, mais plus on sera nombreux... Plus on mettra de l'argent, plus on mettra l'argent de la PAC au bon endroit, plus on mettra de l'argent de la recherche au bon endroit, plus on pourra trouver des solutions. Voilà, je veux dire que ce soit la lutte avec les insectes ou les produits de protection, mais de réelle protection. Hein. Ils ont trouvé la solution déjà de blanchir les cerises au talc. C'est pas une solution miracle, mais ça fonctionne. La Suzuki, elle y va pas, parce qu'elle aime que le rouge. Les fruits sont blancs, elle n'y va pas. Ça fonctionne. Alors après, il faut savoir, mais il faut expliquer aux gens, ben oui, les fruits sont talqués. Ben, passez-les sous l'eau avant de les manger. C'est juste du talc.
Après, il faut toujours faire la différence entre le producteur qui doit en gagner sa vie, qui doit vendre pour gagner sa vie et manger, et puis le jardinier qui peut lui, bon, cette année j'ai pas de pêche, cette année j'ai pas de pommes, l'année prochaine on s'en fout. C'est pas du primordial. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu es producteur, quand tu as travaillé, il faut quand même que tu puisses avoir un salaire.
Bah, tout à fait. Mais je veux dire, on n'est plus dans les années 70 pour que ce soit juste quelques hurluberlus ou cheveux longs qui produisaient en bio aujourd'hui. Des producteurs bio en France, il y en a plein. Plein en pagaille, que ce soit en céréales, en tout ce qu'on veut, quoi. Et je veux dire, en Aveyron, on rencontre des gens qui ont toujours été en bio. Mmh. Toujours. Moi, quand je me suis installé, il y avait des fermes autour de chez moi. Hein, je veux dire, deux dans le village à côté. 35 ans, ils étaient en bio. Moi, ça fait déjà 15 ans. Donc, ça fait 50 ans que les fermes sont en bio. Et ils sont en système traditionnel. Enfin, je veux dire, ils font pas du maraîchage, ils font en élevage, ils font de l'ovin-lait et ça fonctionne.
Et ça marche. Et ça marche.
Ça fonctionne, bien sûr. Là, j'ai un copain qui me disait l'autre jour, c'est une grosse ferme, hein, ils ont 180 ou 150 ou 180 hectares sur le Vézou, hein, ça y va, mais ils sont trois. Ça le fait. Et c'est ses enfants qui ont dit « Papa, on s'installe avec toi, mais on passe en bio. » Bon, ben, il a dit « D'accord. » Ils ont mené la ferme en bio. Et franchement, c'est un système... ils n'ont rien changé, quoi. Je veux dire, ils font encore ils font de l'enrubanage, ils font de l'ensilage, en bio. OK, mais c'est parfait, ils ne traitent plus. Et Laurent, il me dit un jour « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» En plus, il pouvait même. Lui, il a eu un problème de champignons au niveau des fosses nasales. Il ne pouvait même plus rentrer dans un silo à grains. Partout où il stockait le grain, il ne pouvait plus y aller. Et comme par miracle, depuis qu'ils sont en bio, ben, ça ne lui pose plus de problème. Alors là, pour faire le lien de cause à effet, on ne sait rien. Je ne sais pas si un médecin est capable de le faire. Mais lui, il l'a constaté. Et puis, il était rudement emmerdé. Hein, je veux dire, pour. Voilà. Donc c'est possible, c'est possible. Une chose que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'on... Parce que là, on est en train de former un comité de scientifiques de soutien. Parce que forcément, voilà, déjà ce que je vous disais par rapport à Gilles-Éric Serralini, qui malheureusement pour lui reçoit les attaques, voilà, il ne se gêne pas sur lui. Mais il n'est pas le seul au monde à dénoncer les pesticides. Alors, tout le monde n'est pas aussi célèbre que lui parce que ceux qui osent mettre leur carrière, c'est comme Christian Vélo hein, dont tu parlais. Hein. À un moment donné, quand tu t'affrontes le lobby des OGM ou le lobby des pesticides qui est le même, tu mets ta carrière en danger, quoi. Et tu te fais blacklister. Et puis, Christian Vélo, la première chose qu'ils ont fait, c'est plus de sous sur le laboratoire. Donc, travaille comme tu veux, mais t'es chercheur, mais t'as plus de rond. Donc, c'est... Bon, maintenant, il est à la retraite, mais... Donc c'est pas évident. Donc, mais il y en a. On en a quelques-uns. Donc on va monter un comité de scientifiques parce que ce qu'on veut, c'est montrer que la rationalité. Parce que c'est ça le discours qu'on a en face, c'est que c'est eux qui sont rationnels et nous on est alors bobos parisiens, tout ce qu'on veut quoi. Enfin des écolos à la con qui comprennent rien, etc. Non, ce qu'on veut montrer, c'est que la rationalité, elle est de notre côté. C'est eux qui sont irrationnels en utilisant des poisons à tire-larigot sans aucune. Parce que quand Christian Lambert dit oh, mais le tonnage il a baissé, déjà, les chiffres du tonnage sont limites, sauf que la toxicité au tonnage, elle a augmenté. Donc peut-être que même si le tonnage il a réussi à baisser de quelques tonnes, la toxicité des produits utilisés, la totalité, elle est multipliée par je ne sais combien. Après, en plus, c'est affreux, parce que quand je vous dis il y avait de l'arsenic, ouais, mais c'est des impuretés. Eh bien, si vous avez une belle-mère qui vous dérange, vous ferez lui un pot de confiture avec une impureté d'arsenic. C'est peut-être une défense qu'on peut avoir devant le juge. Je ne l'ai pas tué, c'était juste des impuretés dans la confiture de groseille. Et avec ces histoires d'impuretés, de résidus, etc., en fait, ils jouent avec les seuils. Et Gilles-Éric nous expliquait l'autre jour, alors je ne sais plus si c'est sur les résidus ou sur les impuretés, en fait ils ont, en changeant de classification, le seuil de détection est passé à un tel niveau que si chez l'homme on devait rechercher la testostérone, on ne pourrait même pas prouver qu'il en a. C'est une hormone, quoi. Je veux dire, c'est l'hormone qui... C'est une des hormones qui fait la différence entre les hommes et les femmes, quoi. Et bien, avec ces niveaux de détection, on ne trouve plus rien, en fait. Donc, c'est cool, c'est tranquille. Quand on sait que la plupart des pesticides, si ce n'est pas tous, sont des perturbateurs endocriniens. Et là, la dernière étude de Serralini, je vous invite à la lire, c'est effrayant. Ils sont perturbateurs... Ils les ont appelés les ENDS. Endocrinal, neurological, le D, je ne sais plus, parce qu'ils viennent de découvrir, de montrer que ce sont des perturbateurs endocriniens et neurologiques. Donc là, c'est bon, le lien, il est fait. Si on avait encore des doutes sur Alzheimer, Parkinson et compagnie, maintenant on sait, quoi. On sait. Ils viennent se foutre dans les neurotransmetteurs.
Donc, puisqu'on parle tout le temps du glyphosate, ils viennent de montrer, là, donc une équipe scientifique vient de prouver, que le glyphosate a des effets perturbateurs endocriniens sur les larves d'insectes. Donc il est non seulement herbicide, mais en fait il est responsable de la disparition des insectes.
Oui.
Parce que ça touche les larves. Et donc si la larve meurt, il n'y a pas de papillons, il y a pas de. Tous les insectes disparaissent. C'est ce qu'on observe. Donc le Roundup fait partie des insecticides responsables de la disparition des insectes et des oiseaux derrière.
Voilà, tout à fait. Et vous avez le livre là-bas de Fabrice Nicolino. Je crois qu'il a écrit tout seul. Le crime était presque parfait. Pierre Rustin, donc c'est les SDHI. Hein, alors, SDHI, c'est succinate des inhibiteurs, hydrogénase inhibiteur. Voilà. Donc, c'est l'inhibiteur de la succinate des hydrogénases. C'est très joli comme nom, mais c'est quoi? C'est le bazar qui, dans la cellule, est responsable de la respiration de la cellule. Et ils ont trouvé que pour tuer une moisissure, eh ben ça marchait très bien d'inhiber le fonctionnement respiratoire de la cellule. Et le fongicide, voilà. Ok, 80% des fongicides sont des SDHI. Super. Pierre Rustin, au CNRS 2, Angers, Le Mans, je sais pas, enfin par là-bas. Rien à voir avec les pesticides. Pas un militant du tout. Il découvre, parce qu'il travaille sur les maladies orphelines, et il travaille sur la respiration des cellules. Et il travaille sur la succinate des hydrogénases. Et là, il s'aperçoit que les fongicides sont des inhibiteurs. Et il découvre l'importance, enfin, il travaille sur l'importance de cette cellule, de cette fonction respiratoire qui doit manquer, j'imagine, dans certaines maladies orphelines. Et il découvre que ces SDHI sont répandus dans l'environnement et qu'en plus, ils ne s'arrêtent pas aux moisissures. Tous les êtres vivants subissent l'action des SDHI. Donc, il a alerté l'ANSES. Ses collègues lui ont dit, mais ils ont rigolé, quoi. Il dit, tu crois qu'ils vont te répondre? Ils ont fini, parce que du coup, avec les coquelicots, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une campagne où on voyait des scientifiques qui se bouchaient les yeux, qui se fermaient la bouche, qui se fermaient les oreilles. Ils ont fait une campagne d'affichage devant toutes les agences départementales de santé, devant les députations, devant tout ça. Donc ça finit par... Il y a carrément une députée, je ne sais plus laquelle c'était, je ne sais pas si c'est pas Delphine Bateau, qui s'est réveillée, un matin et qui a vu devant sa députation, c'est quoi les SDHI, quoi? Ils n'en savaient rien du tout. Donc ça finit par foutre du bordel. Donc ils ont, en plus avec Nicolino, ils sont allés avec les mégaphones devant l'ANSES à Maison Alfort foutre le bordel. Donc ils ont réussi à avoir deux choses. Une enquête parlementaire avec une mission parlementaire, et d'être reçu par l'ANSES. Pierre Rustin dit, c'est le pire moment de ma carrière de scientifique, c'était d'avoir été reçu par des scientifiques de l'ANSES. Ils ont été traités comme... Je veux dire, on est scientifique, la première chose qu'on a envie de faire, un scientifique découvre ça, on étudie son étude, on dit, hop, on arrête ces machins-là tout de suite et on prend du recul, quoi. C'est toujours rien passé, quoi. Donc c'est voilà, il faut se bastonner, quoi. Il faut montrer que l'irrationalité, elle est de notre côté, pas du leur. Enfin, pas. J'aime pas faire deux camps, mais c'est l'agriculture bio qui a. Voilà, on a les solutions, on en a plein, et il faut travailler dans ce sens, quoi. Et arrêter de faire tomber cette citadelle du mensonge, quoi. Vas-y.
Ouais. Sur la question, je reviens sur le Roundup, au niveau médiatique, pour moi, il y a une offensive assez importante actuellement, notamment parce que dans le monde agricole, il y a autour du semis direct et l'usage du glypho. Et en Aveyron, j'ai plus un prénom, Madame Singla.
Singla, oui.
À Pont-de-Salard. Et je crois que j'avais dit en question, on était sollicité pour passer des films en fait, avec Monde et Multitude. Et je crois qu'il y avait un film, j'ai vu que la bande-annonce, mais Bienvenue les vers de terre. Qui m'a semblé être un cheval de. Enfin,
ah ben c'est ça, c'est la défense du semi-direct au Roundup.
Et du coup, parce que voilà, le discours qu'il y a, c'est vraiment de dire que la chimie, enfin, on parle de. Par rapport à ce qu'il peut avoir de non assumé en fait et de caché en fait, de dire c'est pas dangereux dans l'usage des pesticides, là c'est assumé. Dans un centre presse, il y a un article disant on a besoin du glypho, c'est le pilier d'une révolution agricole qui permet de ne pas labourer. Et ce qui se fait, s'il y a une réalité en fait, dans le sens où le non-labour permet de, a des avantages sur le stockage de matière organique, sur plein de choses. Mais voilà, le semis direct, ça peut se faire sans glypho, mais l'usage du Roundup le facilite largement.
C'est ça.
Et donc voilà, il y a un discours du monde agricole de certaines personnes de dire voilà, c'est une révolution agronomique et on a besoin de la chimie. Et est-ce que ce discours ouvert, en fait, de dire on assume d'utiliser le glyphosate et c'est positif, est-ce qu'il va jusqu'à dans le débat sur la question de l'autorisation, mettons, formulation complète, est-ce qu'il y a une. Enfin, je sais pas, où est-ce que c'est quelqu'un comme Madame Singlet, qui a l'air ouverte au.
Après, moi, voilà, j'ai discuté avec des gens qui défendaient cette façon de faire. Hein. Merci Stéphane Le Foll, hein. C'est lui qui a vraiment donné l'élan à tout ça en 2013, en parlant des nouvelles méthodes d'agroécologie. Il a fallu qu'on se réapproprie le mot d'agroécologie paysanne, parce que du coup, on a déposé avec la Via Campesina une définition au niveau international, parce que enfin, vous savez qu'à Nature Apparaît, on n'a déjà plus le droit d'utiliser le mot agriculture biologique, alors qu'on a le premier cahier des charges de l'agriculture biologique au monde, quoi, en 1972. Donc la bataille sur les mots est importante. Et ils défendent effectivement la préservation des sols, l'érosion, le stockage. Oui, ça se défend. Ça se défend à partir du moment où le Roundup n'est pas dangereux.
Et des conflits d'intérêts, est-ce qu'il y en a, pardon, est-ce qu'il y a des suppositions ou des
éléments? Non, je pense que c'est sincère. Je pense que. Vous savez de qui elle est, la petite fille, cette Madame Singlet, dont on a oublié le prénom. C'est fondateur de la RAGT. Ouais. Mais je pense pas qu'elle touche un centime pour un bidon de Roundup vendu. Hein. Mais je pense qu'elle est vraiment sincère. Moi, j'ai rencontré des gens sincères par rapport à ça. C'est pas à cause de ce mensonge. Du mensonge pour dire le Roundup n'est pas dangereux. Alors que c'est un perturbateur endocrinien, que c'est un reprotoxique, c'est un cancérigène. Il est reconnu internationalement comme cancérigène. Et je veux dire, la loi interdit la commercialisation d'un produit cancérigène. Là, la Cour de justice de l'Union européenne vient de condamner Monsanto Bayer à publier les études bidons sur le glyphosate et le Roundup. Là, ça vient de. Ils doivent les publier, donc ça doit sortir. Enfin, normalement, on doit y avoir accès, là. C'est ça, c'est à chaque fois, c'est ce mensonge qui fait que. Mais c'est pas dangereux. Donc, du coup, après, les gens sont sincères derrière. Il n'y a pas de. Jamais je les accuserai de vouloir nous empoisonner, etc. C'est ça le problème.
Historiquement, au niveau mondial, le promoteur le plus actif du non-labour, récemment, ça a été Monsanto. Mmh. C'est-à-dire que en France, on parle toujours de notre nombril français, mais en fait, pendant des années, et ça fait longtemps que ça dure, en Amérique du Sud, Monsanto a lancé une grande campagne de culture, de préservation des sols. Mmh. Allons, préservons les sols contre l'érosion. Ils avaient un discours magnifique. Mmh. Et fatalement, c'était. On va vous donner du Roundup, vous inquiétez pas, vous aurez tout le Roundup que vous voulez pour faire ça. Et voilà, c'est ça, il y a une contradiction entre. Enfin, ils jouent là-dessus, ils ont un discours qui est vert, en apparence vert, et puis en dessous, c'est pour filer leur cochonnerie.
Oui, c'est ça.
Et bien, l'argument, quand même, pour dire qu'on n'a pas besoin de Roundup, c'est qu'il y a des techniques de semis sous couvert, qui n'ont pas besoin donc, de désherbants. Mais pourquoi les paysans actuels. Ici, ils veulent passer du labour au non-labour en utilisant un désherbant, c'est parce que quand même ça les travaille au corps de se dire je ne vais pas laisser mon champ sale. Pour eux, un champ qui n'a pas la terre à nu avant le semis, c'est qu'il est sale. Donc il y a toute une philosophie, des habitudes à changer. Donc le Roundup, pour eux, ça les rassure un peu d'avoir un champ qui soit entre guillemets propre. C'est-à-dire où tout est jaune et tout est crevé, là, et après, là, c'est bon, je peux semer. Mm-hmm. Parce que c'est pas dans leur culture de faire pousser quelque chose, de l'écraser et de semer dessous. Mm-hmm. Et en plus, ça veut dire aussi acheter du nouveau matériel. Parfois, c'est des investissements qui seront à court terme, c'est plus gros, mais à long terme, ils y gagneraient, mais à court terme, ils n'ont pas envie.
De toute façon, ils sont subventionnés pour acheter le matériel, je veux dire, la PAC.
Pas de souci. Le conseil régional, ils subventionnent les clients. à 50% de matériel. Sur l'achat de matériel, il y a 50% de subvention. Et c'est le conseil régional, c'est nous qu'on paye tout cela.
Puis ils ont intérêt, hein, tous ceux qui sont en réel, à investir, à acheter du matériel, à renouveler les tracteurs régulièrement, parce que c'est
leur charge.
Exactement, c'est autant qu'ils ne payent pas de l'autre côté. Donc, non, c'est une excuse bidon de leur part. C'est, après, effectivement, c'est, et puis, mais c'est surtout aussi c'est que la chimie, elle leur a fait oublier qu'avant tout, ils étaient des agronomes. Et en fait, la chimie, c'est. Pose pas de questions, quoi. Ça marche. T'as pas besoin de savoir si c'est le bon moment, si ton sol il dit quoi que ce soit. Tu t'occupes pas. Prends le tracteur, tu pulvérises, tu sèmes, et ça marche. Si tu veux faire un semis sous couvert, bah, il faut t'y prendre au bon moment, en fonction d'un bon état végétatif de la plante. C'est plus compliqué. Ça demande beaucoup. Ça demande de descendre du tracteur aussi, aller voir le sol, etc. Donc voilà, c'est ça. C'est effectivement, il y a tout l'enseignement à changer, tout à révolutionner, quoi. Quand Claude Bourguignon, qui n'est pas quelqu'un que j'apprécie forcément, mais quand il disait que... il a quel âge maintenant, 60 et quelques. Quand il disait quand il était chercheur à l'INRA, qu'il a commencé quand il était au début de son travail, on ne parlait pas du sol, quoi. Ça, ça n'existe pas, quoi.
Est-ce que la meilleure façon de faire passer le message, c'est pas... Pour moi, c'est ça, mais... c'est de faire soi-même, c'est-à-dire de cultiver comme a fait Pierre Rabhi, où il n'a pas expliqué comment faire, où il a fait, et les gens se sont intéressés. C'est-à-dire que si tu produis, si tu arrives à faire un jardin, toi, dans ton petit coin de campagne, je ne parle pas de production pour nourrir une famille, mais pour au moins pour les jardins familiaux, les petits jardins, et que tu produis des légumes, et puis que tu utilises effectivement aucun produit, comme c'est mon cas, eh bien, au moins, c'est possible.
Oui.
Quelqu'un vient te voir et il va te dire « Ah, mais comment t'as fait pour contre ça ?» Je dis « Ben, j'ai rien fait parce que c'est foutu, on en mangera plus l'année prochaine. » Enfin, mais il faut qu'il y ait une production derrière, parce que sinon, tu peux pas dire comment faire si toi, tu n'es pas capable de produire toi-même.
Des exemples d'agribio, il y en a plein en Aveyron. Je veux dire, quelqu'un qui est éleveur, qui a envie d'aller, ben, il y en a plein. Plein. Et des gens qui font « Moi, je connais des gens qui font du semis direct sous couvert. J'étais allé chez eux en 2005. C'est bien avant la révolution d'aujourd'hui. Ils étaient déjà sur ces techniques-là. Donc ça fonctionne. Après, on peut se rater comme tout le monde. Je veux dire, après ce qu'ils disent, oh, parce qu'on me l'a fait, oh, bah, y en a qui se sont troués avec le semis direct sous couvert. Oui, c'est plus compliqué qu'un semis direct au Roundup. Mais est-ce qu'on... C'est sûr. Mais je veux dire, on les connaît, toutes les méthodes. Et puis... Mais il y a un problème de mentalité. Moi, je me souviens d'un copain qui est passé en bio et qui, du coup, a été invité à participer à des groupes de travail en bio. Et il n'en revenait pas de l'échange de connaissances qui se faisait entre les producteurs en bio. Il n'y avait pas ça en conventionnel. Parce que vous savez bien, quand on est sur sa ferme, ce qu'on aurait plutôt envie, c'est que le voisin, il se pète la gueule, comme ça, on lui rachète la moitié de ses terres, si on peut pas reprendre la ferme.
Il y a tant d'observations.
Voilà. Alors qu'en bio, on rencontre des difficultés, il faut trouver des solutions pour plein de trucs, quoi. Et du coup, on partage, quoi. On partage. Et c'est voilà, là, il y a un changement de mentalité à faire aussi. Apprendre à être solidaire, quoi, à être ensemble. Il faut qu'ils arrivent dans la merde pour créer des associations comme Solidarité Paysan, quoi. C'est ça qui est terrible. Et là, enfin, regardez-le, enfin, Le Champ des Possibles, c'est un joli film qui parle de Solidarité Paysan, je ne sais pas si vous l'avez fait venir par ici. Donc il montre plein de modèles différents, mais il raconte ce paysan qui... Ben, il y en a un qui disait, ben, il l'a trouvé, il faisait les 100 pas avec la corde pour se pendre. Dans la cour de sa ferme, il était hébété, quoi. Et donc ils l'ont attrapé, ils l'ont accompagné. Et celui qui raconte ça, eh ben, il était endetté, mais jusqu'au cou, parce qu'il était dans un système archi-conventionnel de maïs en silage, d'aliments, etc. Et puis, c'est le Sivam Bio qui l'a accompagné. Et Sivam lui a juste rappelé que les vaches, ça mange aussi juste de l'herbe, quoi. Donc il a tout arrêté son modèle conventionnel, il est passé en bio. Et les vaches mangent de l'herbe. Et ce mec était déprimé. C'est ses enfants qui l'aidaient à vivre à un moment donné, quoi. Et bien maintenant, il est heureux. heureux de... Parce que ces vaches étaient en stabulation permanente. Elles ne sortaient pas. Elles étaient bouffées dans l'ensilage à longueur de temps. Elles pissaient du lait dégueulasse, en veux-tu, en voilà. Et lui, il n'avait plus de plaisir à son métier, quoi. Et maintenant, son grand bonheur, c'est de se lever à 6h30 du matin, d'aller au lever du soleil chercher ses vaches pour les ramener à la traite, quoi. Et les vaches ne mangent plus que de l'herbe. C'est pas compliqué. On en a des solutions, quoi.
On parle de l'institution européenne.
Ouais.
Dès le début, tu as dit l'Europe, l'Europe.
Ouais.
Est-ce que dans d'autres pays européens, on a un peu cette envie d'en découdre avec ces institutions européennes? Est-ce qu'on est tout seul au monde, ou en Europe, puisque l'Europe, c'est pas le monde, mais presque. Et est-ce qu'on est... Est-ce que ailleurs ça se passe un peu comme ça?
On est en train de le faire. On est... On a rameuté avec nous, c'est en train de se mettre en place en Belgique, en Italie, et en Espagne, ça commence un peu plus doucement. Voilà. Il faut identifier en fait les bonnes personnes, parce que tu vois, moi j'ai contacté la FNAB pour les faire rejoindre. Ah, mais c'est pas notre truc, nous, de combattre les pesticides. Ok. Donc du coup, tu vois, il faut identifier quand c'est pas ton pays. Donc, tu vois, en Italie, on est passé par le député européen qui nous a suivis. Et on travaille avec son attaché parlementaire. On a identifié la bonne assos. Je suis passé aussi par le CVC, la coordination européenne de la Via Campesina, pour identifier les bons acteurs dans différents pays. Puis voilà, on les aborde comme ça. En Belgique, c'est facile, parce qu'il y a Nature et Progrès Belgique. Donc là, c'était... Allô, Marc ? Voilà, du coup, c'est parti. Ils ont interpellé déjà leur ministre, qui leur a fait une réponse de... voilà, allez vous faire voir. Et donc,
Allemagne.
Alors Allemagne, c'est plus compliqué. Allemagne, c'est plus compliqué. Ils sont très très. C'est vraiment. Puis on le voit bien au niveau du Parlement. C'est vraiment un pays de négociateurs. C'est pas des gens qui montent au créneau. Après, oui, on travaille avec Gegenbayer. Donc voilà. Pour le moment, il n'y a qu'avec eux qu'on commence à faire des choses. Gegenbayer, il y a un article qui a été publié, enfin que j'ai écrit, qui a été publié dans la revue. Quoi.
Oui. Et même si ce n'est pas des associations écolo-vertes, est-ce que les populations, est-ce que la France est différente d'autres pays, est-ce que les populations plus, pas plus urbaines, mais plus enclines à penser bio, à penser mieux?
Je pense qu'il y a des pays qui ont le même niveau de réflexion. Mais tu vois, en Allemagne, ils sont... niveau-là, ils ont vachement avancé, mais c'est une question de culture aussi. L'Espagne, l'Italie, c'est des pays qui bougent bien. Après, on sait qu'il y a des pays, la Pologne, puisque il y a des produits de l'étude Serralini qui ont été achetés en Pologne. Pologne, c'est pas qu'il n'y a pas de conscience, mais il n'y a pas de mouvement, quoi. Tu vois ? Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Parce qu'à qui on dit que des produits ils sont vendus en Pologne, qui sont catastrophiques, et là, c'est plus compliqué. Donc là, on commence à avoir un petit relais. On a un échange avec une journaliste polonaise. Mais tu vois, ça dépend le niveau de culture, enfin de culture, pas qu'ils sont pas cultivés, par rapport à ce sujet-là, quoi. Tu vois, quel est leur arrière-plan, quoi, par rapport à tout ça, quoi. Voilà.
La Croatie, c'est un petit pays, mais ils sont encore en agriculture. C'est des petites fermes. Ils produisent. De façon traditionnelle. Voilà.
Après, l'Europe fait pas mal de mal dans ces pays-là.
Mais oui, mais ils sont encore... ils sont prudents, mais ils se protègent.
Tant mieux.
Ils sont restants.
Voilà. Non, non, mais voilà. Après, ils peuvent garder leur modèle sans être militants aussi.
Ils sont conscients des dangers de ce qu'on a fait, nous.
Voilà. Mais ils n'ont peut-être pas eu besoin de se soulever contre quelque chose. Ils protègent, mais voilà, c'est ça qu'il faut identifier, qui s'est engagé, etc. Mais après, dans les parlementaires qui nous ont rejoints, il y a vraiment... Je ne pense pas qu'il y ait les 25 pays de l'Union, mais entre 15 et 20. Entre 15 et 20. Donc ça a vraiment, il y a vraiment des gens touchés partout, quoi. Et concernés par cette problématique. Il y a des pays des Balkans, il y a la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, Belgique, Pays-Bas. Tout le monde, il y a vraiment du monde qui a signé. Parce que le groupe ALE Les Verts a signé en entier La GUE n'a pas signé, tous n'ont pas signé, mais pas mal. Et SND, eux, sont très frileux, donc et il y en a eu deux de Renew, Pascal Canfin et puis je sais plus qui. Voilà, après, ouais, chaque pays a vraiment un background différent et du coup, une sensibilité à ces choses-là. Et puis, voilà, et puis... Après, c'est, en plus, c'est compliqué parce que eux, ils le savent, les industriels, parce qu'ils vont pétitionner, ils vont présenter leurs produits dans des pays où les législations sont faibles au niveau national. Parce que, comme je vous le disais, hein, molécule active, enfin, normalement, c'est pas ce qui devrait être fait, mais c'est ce qu'ils font. Molécule active au niveau européen, formulation complète au niveau national. Donc, ils font ça au niveau européen, ça passe, et puis après, ils choisissent un pays où ça passe facilement au niveau de l'UE. Donc, voilà.
J'ai découvert une pratique, mais je voudrais être un peu plus sûr de ce que je vais dire, si jamais tu connais. Cet été, en Bretagne, on m'a dit que pour faire une maturation des blés, des orges et autres choses comme ça, qui ne soit pas trop lié aux aléas climatiques de l'humidité, on saupoudrait une quinzaine de jours avant une récolte prévue, c'est-à-dire la commande de l'entrepreneur qui vient là, on saupoudrait du glyphosate à des valeurs très légères, mais quand même existantes.
Produit à base de glyphosate. Hein? Produit à base de glyphosate. Faut se forcer. Oui. Non, il faut se forcer à le dire. Il faut se forcer à le dire parce que c'est pas...
Oui, d'accord.
C'est
d'accord.
Juste qu'on prenne l'habitude de plus parler d'adjuvant, de plus...
D'accord.
De plus... Voilà. Voilà.
Alors, est-ce que... Bon, et donc, et on m'a dit aussi que c'était assez facile à reconnaître dans ces périodes-là parce qu'il y avait des champs qui étaient encore assez dorés et puis il y en avait d'autres qui étaient plutôt gris. Voilà. Alors, quand tu vois un champ gris... Tu peux te douter qu'il a été traité et qu'il va être fauché, enfin récolté, moissonné dans les 10 jours qui viennent. Quoi.
Donc il y a un film qui a très très bien marché, parce que ils l'ont vu. C'est un film qui s'appelle Gluten, ennemi public, point d'interrogation. Je vous invite vraiment à le voir. Vous verrez que vous allez retrouver 50% de ce que je vous ai raconté dedans. Il y en a qui l'ont vu ? Ouais. Effectivement. Donc c'est une technique qui est dédiée au blé dur, fabrication des pâtes uniquement, pas pour le blé tendre. Il faut savoir que le blé dur, c'est une plante des pays chauds. Mais le plus gros producteur aujourd'hui, c'est le Canada. Cherchez l'erreur. Donc ils ont un problème de maturation du blé dur, avant les saisons des pluies, etc. Donc ils ont trouvé le moyen, ils le sèchent au glyphosate, au Roundup. C'est interdit en Europe, mais on achète le blé pour faire les pâtes, parce que c'est le plus gros fournisseur mondial. Donc on interdit, mais ça revient quand même.
Voilà. Donc cette histoire donc bretonne, qui dit c'est interdit en Europe, je pense que la Bretagne est encore en Europe, mais on m'a dit ça.
Il y en a qui le faisaient en Bretagne.
Voilà.
Après, on a bien vu, hein, y a des maraîchers qui ont été condamnés avec des produits pour désherber les carottes interdits en France. Hein.
Mais aussi sur les salades, ils n'ont pas ça. Pour les faire blanchir.
Voilà, donc il y a une loi, il y a ceux qui ne la respectent pas, mais après, il y a des. L'Union borde quand même certaines choses. Mais on interdit. Tout à l'heure, je vous parlais des pesticides interdits à la vente en Europe. On les vend, mais après, on importe. Donc ils reviennent. Je veux dire, les Brésiliens, ils sont morts de rire.
Et c'est l'histoire du chlordécone, hein, de toute façon. Hein. Interdit aux États-Unis, fabriqué au Brésil, et de toute façon, arrivé à Martinique.
Voilà. Et les plus empoisonnés, c'est eux, là. Malheureusement, sur ce coup-là. Mais oui, tout ça, de toute façon, ça nous revient, quoi. Donc, non, c'est... Il faut prendre conscience de tout ça, il faut mener le combat, parce que un combat pas mené, c'est un combat perdu d'avance, donc il faut y aller. Soyons nombreux, et puis faisons-nous entendre. Et voilà, après, pour une petite association qui nous rejoint, Nous, on fait le job, quoi. Nous, on s'est engagé, on a un comité de pilotage de secret toxique, on fait le job. On ne vous demande même pas de vous retrousser les manches. Si vous avez envie de participer à un niveau local, c'est bienvenu, mais tout ce temps qu'on passe, on le donne avec cœur et on ne demande personne de le faire. Si quelqu'un après dit ben, « moi j'ai bien envie de participer », c'est autre chose. Mais voilà, vous pouvez juste être soutien, juste porter la plainte. Après, si on arrive à faire des choses localement, eh bien, relayer des choses localement. Mais, voilà.
Je vous propose d'applaudir Philippe et surtout sa lutte.
Salut.